Alors, ce matin, j'avais à cœur de partager un message qui sera court, ça c'est la bonne nouvelle. Je me souviens une fois, je ne sais pas si je l'avais dit, j'avais prêché, je crois, à un mariage, et quelqu'un était venu me voir à la fin en me disant merci parce que c'était court. Alors, je ne sais pas comment prendre ce type de compliment. Ben, c'est mieux que de dire c'est parce que c'était long. Si c'était long, ça ne peut pas être bon. Merci parce que c'était court, c'était très solennel comme remerciement. Je dis, bon, allez, je prends, je prends. Alors, c'est un passage de la Bible qui est très connu, un des plus connus, un incontournable de l'école du dimanche. C'est le passage de la tour de Babel, qui se trouve en Genèse au chapitre 11. Genèse 11. Genèse 11 à partir du verset 1er. J'aime bien pendant l'été revisiter les classiques comme ça. Je trouve que c'est sympa. C'est des passages avec des messages très forts. On n'a pas fait mieux depuis et j'aime bien me réencourager par ça. Genèse 11 à partir du chapitre du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je m'arrête là pour la lecture. Un classique. Alors là, c'est un classique. Alors, quand on regarde dans les interprétations, en général, ce qu'on dit de ce passage, c'est ces gens, ils ont fait une tour pour mettre Dieu au défi. On va toucher le ciel, on va se faire un nom. On va se rebeller contre lui. Et Dieu, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. On va casser ça, on va les disperser parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'on fait la même taille. Voilà, je suis plus grand qu'eux, ce sont de mes créatures, ils ne peuvent pas se rebeller comme ça, donc je vais arrêter ce projet. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui s'est passé. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple, en fait. Ils ont fait une tour, Dieu est venu voir et il n'a pas accroché le projet. Mais est-ce que c'est aussi caricatural? Ils ont fait une tour pour toucher le ciel, pour se faire un nom et Dieu, clac, il casse ça. La question, c'est pourquoi ils ont fait ça? Et alors, j'essaie de réfléchir à ça. Je regardais dans les interprétations, les pères de l'Église, le Moyen-Âge, tout ça. Tout le monde s'accorde à dire, voilà, on a cassé ce projet-là. Globalement, voilà, c'est comme ça qu'on a interprété pendant des siècles. Et puis l'autre jour, j'écoutais un rabbin qui parlait d'autre chose. Et puis d'un coup, il se met à parler de la tour de Babel et il dit, les gens ont construit la tour de Babel peut-être pour échapper à un second déluge. Pour être assez haut pour échapper à un second. Je dis, pourquoi il parle de ça? Alors c'est très intéressant parce que du coup, j'ai regardé juste avant ce qui se passe à la tour de Babel, il y a le déluge. Hein? C'est la violence et le chaos sur toute la terre. Dieu fait pleuvoir. Il reste Noé et un petit groupe. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc lui, il disait, bah, ils ont peut-être fait ça pour échapper à un second déluge. Mais sans parler de ça veut dire que ceux qui ont bâti la tour de Babel, ce sont les survivants du déluge. Ce sont donc les descendants de Noé. C'est là où je me suis dit, mais ils ont échappé au déluge. Ils sont pas bêtes, ils savent. Ce qu'a fait Dieu. Ils le connaissent. Ils ont une connaissance de Dieu, parce qu'ils en parlent. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils ont voulu l'attirer, il est même venu dans la ville. Mais s'ils ont échappé au déluge. Comment ça se fait qu'ils ont fait une tour après? C'est tellement grotesque. C'est là où je me dis, il y a peut-être autre chose dans cette histoire qui pourrait expliquer ce passage. Comment des gens qui ont échappé au déluge ont pu, juste après, faire quelque chose d'aussi grotesque? Il faut s'imaginer, ils ont échappé au pire, hein, je dirais, dans l'histoire du salut, quand même, le déluge, c'est, il n'y a plus personne. Hein. Un petit groupe de personnes qui s'échappent de l'arche et qui vont construire la tour de Babel. Alors, c'est pour ça que ça me gêne de dire, bon, ils ont voulu se rebeller contre Dieu, ils savaient qui c'était, ils savaient qu'ils ne gagneraient pas contre lui. Et je ne pense pas que la tour ait été faite pour échapper à un second déluge s'il remet à pleuvoir. Mais il y en a qui disent ça. Hein. C'est bon, de toute façon, il y a de tout dans les interprétations, c'est intéressant. Mais il y en a qui disent ça. Alors la question, c'est pourquoi ils ont fait cette tour? Et en fait, c'est forcément lié à Noé et au déluge. Et dans ce texte, il y a un verset qui va nous dire spécifiquement quel est le problème. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple et caricatural. Que ce qu'ils ont fait, c'était une rébellion, mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus pernicieux. Voilà. Effectivement, ils se sont rebellés, mais c'était beaucoup plus pernicieux. Et vous allez voir comment nous, des fois, on se retrouve là-dedans. Il est écrit au verset 4 la raison pour laquelle ils ont fait cette tour. Au verset 4, il est écrit quoi ? Pour ne pas être dispersés sur la face de toute la terre. Ils ont fait une tour pour ne pas se disperser. C'est ça la raison. Ils se font un nom. Ils veulent toucher le ciel, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas partir de Babel. Ils veulent rester là. Et ça, c'est l'indice, c'est le verset qui dit tout dans ce passage. Ils ne veulent pas être dispersés. En quoi c'est lié à l'arche de Noé? Parce que dès qu'ils échappent au déluge et qu'ils sortent de l'arche, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Répandez-vous sur la face de la terre. Eh oui. Donc en faisant l'arche, il dit non, on ne bouge plus. On ne bouge plus, on est bien là. Ah oui, mais là, c'est là où tu pêches. Tu peux faire une tour, ok? Tu peux faire une ville, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, Dieu ne détruit rien dans cette histoire. Hein. Il ne détruit pas ce qu'ils ont fait, ce n'est pas le problème en tant que tel. Mais voilà, dans le verset 4, ils disent, alors c'est très humoristique, hein, on fait ça pour ne pas être dispersé sur la face de toute la terre. Alors que Dieu dit aux descendants de Noé et au déluge, après le déluge, répandez-vous sur la face de la terre. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Donc ils n'ont pas voulu forcément aller dire à Dieu, on est plus grand que toi. Mais ils ont voulu dire, on ne veut pas bouger. On est bien là. On est confiné. On est bien, on ne veut pas bouger. C'est pour ça qu'ils sont à l'inverse du plan de Dieu. Dieu leur dit après le déluge, je voulais vous disperser partout. Et il dit non, on va rester là. On va faire une tour, une ville, on va se faire très très bien. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas aussi caricatural que ça, ce passage, en fait, dans le fond. Parce qu'on se dit, voilà, il voulait juste pas bouger. Mais la question, c'est pourquoi faire une tour, alors? Pourquoi ils ont fait une tour? Alors ça aussi, c'est tout un débat, si on regarde dans l'Écriture. Pourquoi ils ont fait une tour? En quoi la tour, ça les préservait de bouger? Est-ce que c'était vraiment pour provoquer Dieu? Si le but, c'était de ne pas bouger, est-ce qu'ils auraient provoqué Dieu? C'est là où je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'ils auraient voulu provoquer Dieu s'ils ne voulaient pas bouger. Et c'est là où c'est beaucoup plus pernicieux. Alors en fait, d'après les archéologues et quand on regarde ce que disent les historiens, en Mésopotamie, plus tard, on dit que la tour de Babel aura inspiré des monuments, des bâtiments qui s'appellent les ziggourats. Ce sont des sortes de tours à étages, comme ça, avec des terrasses. Donc dans la Mésopotamie, c'est-à-dire dans l'Irak actuel, un peu en Iran, il en existe encore certains vestiges, et on voit ces tours comme ça. Alors, il ne faut pas s'imaginer le World Trade Center, hein, on estime que c'était quoi 100, ils disent que ça touche le ciel, mais ça doit faire 100 mètres de haut. Hein. Mais à l'époque, c'était déjà bien. Mais ça touche pas, on touche pas le ciel, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, ces tours-là, elles ont été bâties après, et c'est ça qui est intéressant, avec un temple au rez-de-chaussée et un temple au sommet. Et d'ailleurs, les ziggourats, ça permettait du coup d'attirer Dieu, en fait. C'était une porte pour que Dieu vienne. Et d'ailleurs, Babel, en acadien, dans certains stèles anciennes, ça veut dire la porte des dieux. En hébreu, la racine, ça veut dire charabia, confusion. Mais en acadien, c'est-à-dire la porte des dieux. Vous voyez, là, des fois, c'est pas loin. On fait une petite porte à nous, puis c'est pas loin d'être la confusion. Et moi, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils se sont dit, on va rester là. Seigneur, tu nous as dit de nous disperser, on va rester là. Mais on va te faire une petite place, tranquille. On te met la tour. Tu peux venir, tu descends. Et puis comme ça, tout le monde est content. Voilà. Si le but, c'est qu'on bouge pas, on bouge pas. Et toi, tu viens. Et ça marche, parce que juste après la construction de la tour, Dieu descend. C'est marrant, hein, c'est écrit, Dieu descend, il va voir ce qui se passe, il regarde la tour. Sauf que, il dit, oui, j'ai compris, c'est pernicieux, j'ai compris la manœuvre. Vous voulez me faire venir dans votre ville, dans vos projets, mais vous ne voulez pas vous disperser. C'est là où c'est plus subtil. Hein, là. Ils ont voulu un peu, je pense, amadouer Dieu en disant « Regarde la belle tour qu'on a fait, tu peux rentrer, tu peux venir, tu peux rester. Et nous, on reste là avec toi et on ne bouge plus. » Mais là où vraiment ils ont péché, c'est qu'évidemment, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu leur a dit « Vous allez vous disperser, vous allez partir découvrir le monde et vous allez vous répandre partout. » Je ne sais plus qui l'a dit dans la prière ce matin pour l'Afghanistan. Ce sont aussi tes enfants, tu les as placés là. Je crois que c'est toi, David, qui a prié ça. Oui, en fait, tout être humain sur la terre a été dispersé à un moment donné à partir de Babel. D'ailleurs, il y en a qui surnomment ce passage l'origine des nations. Il n'y avait pas de nation avant. Il y avait juste Babel. Et on dit l'origine des nations. Donc voilà, Dieu est contre ce projet, et d'ailleurs il le dit, quand il descend voir la tour, il dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Voilà la critique de Dieu. Il ne dit pas « Ils ont voulu se mesurer à moi, ils ont voulu se rebeller. » Non, ils ont dit « En fait, ils ont une langue, un peuple, ils ne veulent pas bouger. » C'est ça la critique de Dieu dans cette histoire. Et après, il va les disperser, les versets 8 à 9 seront très précis en disant « Il les dispersa, il les metta partout pour qu'ils puissent... » Voilà, c'est vraiment ça qu'il critique. Il ne détruit pas la ville, il n'y a personne qui est mort, il ne détruit pas la tour, il dit juste « Voilà, on ne peut pas en rester là, il faut vous disperser, sortez de là. » C'est pour ça que je pense que c'est un sujet, la tour de Babel, qui est intéressant, parce que c'est ça qui nous montre qu'effectivement, partout dans les nations, tous sont partis de là, et ont été quelque part missionnés par Dieu pour être là. Et ce sont tous potentiellement des frères et des sœurs en Christ qui peuvent revenir à leur Créateur. Mais il y a vraiment cette idée de Dieu qui règne, Dieu règne sur les nations. Il règne sur le Mali, il règne sur l'Afghanistan. Tous ceux qui ont été placés là, ils ont été placés là pour un but, et ils sont appelés à vivre d'autres choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose, Dieu règne partout, il règne sur les nations. Voilà ce que je voulais revoir avec vous ce matin. Vous voyez, des petits passages comme ça, on passe vite fait dessus, puis on dit, bon, voilà, ils ont voulu se rebeller contre Dieu. Non, ils ont voulu faire rentrer Dieu dans leur projet. Évidemment, l'application pour nous, c'est qu'on fait pareil. Hein. On va peut-être pas bâtir une tour de 100 mètres de haut, mais on va bâtir des projets en se disant, Seigneur, je te fais une place, tu vas venir là, confort, et puis voilà, on va faire comme tu veux. Mais souvent dans la Bible, il y a cet aspect, cet appel, alors pas à la dispersion, mais à l'envoi. Parce que à Babel, il va dire à ces gens, vous allez vous disperser, vous serez mes représentants, vous serez mes ambassadeurs, vous ferez connaître mon nom, en fait, je pense que c'est ça l'idée. Et quand Jésus envoie les disciples, il y a toujours cette même dispersion. Ne restez pas entre vous, forcément, vous pouvez aller, alors, il ne leur demande pas de déménager, mais allez voir des gens, parlez, communiquez, partagez ça. Soyez créatifs, soyez quelque part des pionniers, avancez, sortez un pas en avant, allez-y. Il y a vraiment cette idée-là qu'on retrouve. Il y a un écho dans les nations de Babel et dans l'envoi de Jésus. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Il y aura les nations depuis Babel, elles sont là. Et bien dans ces nations, vous allez faire des disciples. Il y a cet appel qui résonne. Et c'est jusqu'à l'Apocalypse, parce que je relisais du coup en... les échos qu'il y a dans la Bible. Dans l'Apocalypse, il écrit que les nations se réuniront autour de Dieu, même au ciel. Elles sont toujours là. Israël, les nations, tout le monde se réunit toujours, cette idée de nation. Alors, évidemment, c'est l'idée de Dieu, la diversité, la culture, les voyages. Il y a vraiment cette idée d'une humanité qui n'a pas qu'une seule langue, qui n'a pas qu'une seule façon de vivre, mais il y a mille façons de vivre, il y a mille façons de parler, et c'est ça qui est la diversité, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que ce passage, dans la théologie plus moderne, on le voit plus positivement. On se dit, en fait, c'était l'origine des nations. Ils n'ont pas voulu se disperser. Bon, bah, Dieu, il a mis un petit coup de pouce à Babel. C'était l'occasion qui fait le larron. Et puis voilà, c'est l'origine des nations. Il y a du positif qui est sorti de Babel, c'est qu'en fait, on a pu avoir tous ces peuples qui se sont formés et dont Dieu ne va jamais reprocher l'existence. Dieu va choisir Israël, mais il ne va jamais reprocher aux nations d'être des nations. Au contraire, il les a voulues. Les nations, telles qu'elles existent, il les a voulues. Alors, Babel deviendra évidemment le symbole de, plus tard de Babylone, hein, l'empire qui va être contre Dieu. Et je pense qu'au-delà de Babel, Dieu critique l'impérialisme des peuples qui se croient meilleurs que les autres, qui veulent dominer les autres, qui veulent écraser les autres, comme Babylone. Comme Babel, c'était la pente glissante de Babel. On est un nom, on se fait un nom, on est grand, mais forcément, ça suppose que les autres, ils sont moins grands. Et dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, on voit toujours qu'il y a des peuples, l'Égypte, la Syrie, il y a Babylone, qui veut dominer le monde. Mais ça échoue toujours parce que ça va contre l'idée de Dieu d'avoir des nations. Les nations, c'est bon. Ça permet des échanges quand c'est bien vécu, le mélange des cultures. Voilà, c'est des choses que Dieu, qui reflètent la créativité de Dieu, vraiment, dans qui il est. Il y a vraiment cette beauté-là. Il y a vraiment toute cette beauté-là. Alors sur un plan plus personnel, et je terminerai par ça, je pense qu'il y a l'idée de la diversité des nations à Babel, l'origine des nations, Dieu nous disperse. Jésus nous dit, allez, faites des nations des disciples également. Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a cette idée qu'on est tous différents dans les nations. On est tous différents. Même chacun d'entre nous, ici, on est tous différents. On a tous une chose particulière à apporter que quelqu'un d'autre ne pourra pas forcément apporter. Et à Babel, il y a vraiment ce message, soyez des pionniers, allez-y, dispersez-vous. Tu as quelque chose à apporter que le monde attend. Dieu a des choses à faire passer au travers de toi que personne d'autre pourra apporter. Il y a vraiment cette idée-là, tu as une identité propre, tu as quelque chose en toi. On peut imiter Christ, évidemment, c'est là le but. Mais toi, tu as quelque chose qui est très particulier. Regarde à qui tu es, regarde à ce que tu peux apporter à ce monde. Il y a vraiment cette idée-là, je pense, quand Jésus envoie ses disciples, quand on disperse les nations, fait des nations des disciples, apporte ta pierre à l'édifice qui est vraiment particulière. Elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Voilà. Tu peux t'inspirer d'un frère ou d'une sœur, mais toi, tu as quelque chose vraiment de très particulier. Voilà. Il y a vraiment cette célébration à Babel de la diversité, de la différence, du mélange, quelque chose qui est très beau. Et nous, on le vit en tant qu'Église. Chacun, on apporte quelque chose de différent. Et peut-être que si on n'a pas encore apporté notre pierre qui est spécifique à nous, c'est une bonne année pour la chercher, pour dire qu'est-ce que moi je vais apporter cette année à Dieu qui est vraiment particulier, qui fait partie de mon ADN, qui est à moi, que Dieu m'a donné, que j'ai envie de partager. On ne peut que être, je pense dans ce passage, admiratif de la créativité de Dieu. Il disperse les gens, soyez des pionniers, avancez, allez dans de nouvelles contrées, avancez dans des nouveaux domaines. Regardez de nouvelles choses, expérimentez de nouvelles choses, soyez curieux, allez de par le monde. En fait, c'est un peu ce message à Babel. Et en fait, dans nos vies, à chacun, il y a vraiment aussi cette idée. Peut-être découvre des nouvelles choses cette année, sois pionnier dans un domaine, essaye de voir de la créativité, de la diversité que Dieu peut mettre en chacun d'entre nous. Voilà. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que à Babel, tu as donné des nations. Et ces nations, on les voit aujourd'hui. On voit la diversité, la culture, la créativité que tu mets dans chaque langue, dans chaque territoire, dans chaque personne étrangère qu'on peut rencontrer. Seigneur, tu célèbres cette diversité, tu la célèbres, tu l'accueilles. Et Seigneur, que l'Église soit aussi un lieu d'accueil pour cette diversité. On pense en particulier aux nations qui sont en difficulté, à l'accueil qu'on peut réserver à ces gens. Seigneur, on veut aussi pouvoir les accueillir et célébrer cette diversité au travers de tout ce qui se passe, Seigneur. Seigneur, on te prie aussi pour ne pas faire comme à Babel un projet dans lequel on veut te faire rentrer, mais rentrer dans le tien. Et ton projet, c'est toujours un envoi. Faites des nations des disciples, dispersez-vous, allez, arpentez des nouveaux chemins. Seigneur, montre-nous les chemins, tu veux qu'on arpente cette année des nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouvelles façons de concevoir les choses. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.
Merci beaucoup.